Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes lundi 19 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, c'est une autre journée grise de pluie qui s'annonce. D'ailleurs, ce matin, faible pluie par endroit à Montréal, déjà 11 degrés. Le maximum aujourd'hui devrait tourner autour de 16 degrés. La pluie va s'intensifier, risque d'orage au cours de l'après-midi. Hier, on a reçu, dans la journée, 26 mm de pluie, puis on devrait en ajouter 10 à 20 supplémentaires aujourd'hui. Je vous le disais, le maximum 16 degrés, la pluie va cesser en soirée, ça demeure couvert, 12 durant la nuit. Et puis demain, nuageux, 30% de probabilité d'averse, maximum autour de 21. Jeudi, c'est de la pluie intermittente, pas une semaine très très jolie, là c'est plutôt gris, peu de soleil avec des précipitations principalement aujourd'hui. Le soleil revient vendredi, beaucoup plus frais, autour de 14 degrés. Alors évidemment, c'est jour de funérailles aujourd'hui à Londres, la reine Élisabeth II. La cérémonie est commencée depuis le milieu de la nuit, heure de Montréal. D'ailleurs, la dépouille vient d'entrer à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. 500 chefs d'État et dignitaires sont présents. Philippe Bonneville est sur place. Et évidemment, Philippe, on parle de tous ces dignitaires, mais également une foule imposante qui assiste à la cérémonie à partir de plusieurs endroits situés à Londres.
Oui, parce que la cérémonie, elle est retransmise, Paul, sur des écrans géants dans plusieurs endroits, notamment là où je me trouve présentement, c'est à Hyde Park, un immense parc qui se situe pas très loin de Buckingham Palace. C'est le cercueil de la reine Elisabeth qui est arrivée à l'abbaye de Westminster il y a quelques minutes à peine. C'était un moment très solennel. Les gens regardent sur les écrans, sont très silencieux, sont très respectueux de ce qui se passe actuellement. Les funérailles ici qui vont durer environ 60 minutes. Et il faut savoir que la reine a elle-même été très, très impliquée dans la préparation de ses propres funérailles. Elle a elle-même approuvé chaque élément de la cérémonie. Donc, il n'y a que 2000 places dans l'abbaye de Westminster. Donc, le public n'a pas pu entrer, évidemment. Mais il y a des dizaines de milliers de personnes autour de moi présentement. C'est assez impressionnant ce qui se passe ici. Comme je disais, à Hyde Park, un immense parc, des écrans géants. Je laisse entendre une Française que j'ai rencontrée tantôt et qui tenait vraiment à être ici, à vivre ce moment-là, qu'elle qualifie d'historique. Elle voulait être présente avec la foule.
Pouvoir être avec les Britanniques, voir vraiment vivre ce jour historique avec eux, et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je me voyais pas être toute seule devant ma télé. Voilà, je voulais être avec tout le monde et vivre ce moment. Je trouve ça génial parce que Hyde Park, c'est un parc vraiment très grand et qui peut accueillir beaucoup de monde. Et même au niveau de la gestion, de l'organisation, il y a tout qui est super bien fait.
Et pas une fois que la cérémonie va prendre fin, il y aura une procession avec le cercueil dans les rues du centre de Londres. Des milliers de personnes, je dirais même des dizaines de milliers de personnes qui ont passé la nuit, imagine Paul, sur les trottoirs du parcours pour avoir une bonne place. Les gens, littéralement, certains ont dormi sur les trottoirs. Et c'est le cas du Québécois. C'est le Québécois que je vous ai fait entendre vendredi. Eh bien, lui, il est sur place depuis 1h du matin pour pouvoir justement bien voir le cortège lors de la procession.
Maintenant, ça veut dire des mesures de sécurité intenses. Il y a plus de 10 000 policiers déployés.
Ouais, moi, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Il y a des policiers là et des militaires partout, partout, partout. Sur certains secteurs, là, il y a littéralement un policier à chaque 2 mètres. Un regarde vers en avant, l'autre regarde vers en arrière. Tout le centre de Londres, il est bouclé depuis hier après-midi. Toutes les rues du centre de Londres, ça ne s'est jamais vu d'ailleurs, sont fermées à la circulation. Mais on peut comprendre, là, parce qu'il y a présence ici actuellement de centaines de chefs d'État et de dignitaires de partout dans le monde. Certains disent que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a autant de chefs d'État réunis exactement au même endroit, au même moment, soit dans le bâtiment justement de l'abbaye de Westminster. Donc, ça demande des mesures de sécurité vraiment exceptionnelles et c'est ce à quoi on assiste ici présentement à Londres.
Merci beaucoup. Et je me permets d'ajouter au sujet des funérailles de la reine, Une lecture politique qu'il faut faire de l'événement. Parce que, on le disait, 500 dignitaires, chefs d'État, beaucoup d'échanges. Et avec Jean-François, on va regarder le contexte, Jean-François Lépine, le contexte politique un peu plus tard, derrière, bien sûr, cette manifestation hors du commun qui se déroule présentement à Londres. Il faut parler aussi des principaux absents. Le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite, le président chinois et évidemment Vladimir Poutine. Ce qui m'amène aussi à vous parler ce matin de la situation en Ukraine. On constate, depuis déjà plusieurs jours, espèce de progrès réalisé par les forces ukrainiennes. Et ce matin, vous avez l'ambassadeur d'Ukraine à Washington qui insiste sur sur le fait que les Russes ont commis des crimes de guerre graves. On parle ici de viol, de meurtre, de torture. Il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites en ce sens au cours de la fin de semaine. Et donc, l'obligation pour la communauté internationale de noter ce qui se passe. Le président Biden en a ajouté en disant que des gestes barbares avaient été commis par la Russie depuis le début de l'invasion. Mais donc, il y a des progrès notables faits par la résistance ukrainienne sur le terrain. Parlons maintenant de la campagne électorale. Mine de rien, là, les Québécois vont voter dans deux semaines. Un autre débat, le deuxième, est prévu donc pour jeudi. Et la tournure prise en fin de semaine par, cette campagne électorale mérite qu'on s'y arrête deux secondes ce matin et qu'on puisse quand même relever certains faits. D'abord, on peut dire que c'est pas une très très bonne campagne pour le premier ministre Legault. Quand vous regardez depuis le début, disons que les incidents de parcours sont nombreux en matière d'immigration. Le troisième lien, venir dire qu'il n'y a pas d'études qui existent pour justifier un projet qui nécessite un tel investissement et que les études vont commencer peut-être au début de l'an prochain, disons que ça fait pas très très sérieux. Troisièmement, son attitude au débat, où sa présence était, en tout cas, pour reprendre l'expression, il n'avait pas dit à sa face qu'il y avait du plaisir, là. Et en plus de ça, l'espèce de d'écœurantite qui dégageait, on va dire comme ça. Puis je pense que tous les observateurs l'ont remarqué, il n'était pas à l'aise. On l'a vu meilleur que ça. En fin de semaine, s'accroche les pieds avec l'histoire des Atikameks et il veut pas tomber dans le débat sur le racisme systémique, mais donne l'impression que c'est réglé. Là, vous avez les leaders autochtones qui sortent. Je sais pas, il fait une mauvaise campagne depuis le début et il essaie de positionner cette campagne comme étant un face-à-face avec Québec solidaire. Évidemment que ça fait l'affaire de Québec solidaire, de Guillaume Nadeau-Dubois. C'est la gauche qui affronte Nadeau-Dubois qui affronte le centre droit que représente la CAQ. Et M. Legault tasse les libéraux, tasse le Parti québécois et tasse les conservateurs. C'est ça son jeu. Dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Dans certains comtés, dans certains coins du Québec, la bataille se fait à trois, à deux, mais pas nécessairement tout le temps avec Québec solidaire. Donc, deux semaines, là, puis le débat de jeudi va être, je pense, assez déterminant, quoique les gens ont probablement déjà fait pas mal leur idée, parce qu'il y a une capacité d'influencer, peut-être. Mais disons qu'en termes de campagne, c'est assez moyen pour le gouvernement sortant. Dans le cas des autres partis, si j'oublie les déclarations délirantes du Parti conservateur, les raccourcis, les demi-vérités, des promesses plus ou moins détaillées. Un fait demeure, c'est que dans certains coins du Québec, on l'a vu vendredi avec le rassemblement au centre Vidéotron, là, dans le hall, ça tire, ça marche. Puis les gens sont là, puis ce sont des gens qui, comme on a vu souvent, s'impliquent en politique pour la première fois. Et ça peut pas passer là inaperçu dans le décor. Est-ce que les gens vont aller voter? Puis je rappelle ce chiffre des sondages qui était bien intéressant. Les jeunes, là, 18-34, c'est à Québec. Ça se divise en deux. Québec solidaire, puis Duhem, les conservateurs. Ça veut dire gauche-droite. Et ça, là, c'est très, très clair. Avec un peu de CAQ à travers tout ça, mais peu au Parti québécois, et peu au Parti libéral. En parlant du Parti libéral, la chef Dominique Anglade sera avec nous tantôt. Pour être très franc, tu sais, quand ça part mal, là, c'est dur à rattraper. Alors, là, il manque un candidat dans Matane. Pas trop ce qui est arrivé. Prétend qu'on va contester la décision de la Direction générale des élections. C'est à voir. Un autre candidat qui a décidé de pas y aller. Que le Parti libéral fasse autant d'erreurs de chiffres. Puis Québec solidaire en a fait aussi, là. Mais, tu sais, le Parti libéral, parti de gouvernement, parti de l'économie, ça laisse perplexe. Puis la vraie vie, là, c'est que ça va pas bien pour Mme Anglade dans son comté. Quand vous regardez les projections, deuxième, possiblement troisième, dans Verdun. Donc, à part les forteresses libérales, inattaquables, inébranlables, ça va pas bien. Et Québec solidaire a un peu, pout, le vent dans les voiles, ça roule pas si mal. Mais j'ai envie de vous dire que les promesses, par exemple, qui ont été faites en fin de semaine sur la santé mentale, on nous promet un psychologue, puis 15 semaines à tout le monde, les libéraux nous promettent un médecin à tout le monde, je veux dire, on sait très bien qu'il n'y a pas la main d'œuvre pour supporter ça. Et je ne sais pas s'il y a une complaisance face à Québec solidaire, mais tu sais, quand Gabriel Nadeau-Dubois se présente en disant « Nous, on dit pas n'importe quoi, puis on sait que les autres partis ont déçu. » Je m'excuse, là. Les cibles en matière environnementale sont pas irréalistes 100%, mais je vais vous dire une chose, même les experts disent « Ça va prendre un méchant coup de barre. » Et comment on va trouver ça, 15 000? Le psychologue, quand même que vous m'annonciez demain matin que vous allez investir 1 milliard en santé mentale, c'est quoi le plan? C'est quoi l'échéancier? Alors, débat, prochain débat qui aura lieu. Je poursuis la revue de presse. Des nouvelles économiques ce matin qui sont intéressantes. D'abord, je regarde dans De Gazette. On a beaucoup parlé de Verdun. Verdun qui s'est transformé au fil des ans. Verdun qui est même considéré, la rue Wellington, là, comme l'artère commerciale la plus haute sur la planète en raison du type de commerce. Mais la réalité aussi, c'est l'habitation. On a vu que les rôles d'évaluation déposés la semaine dernière, à quel point la valeur des maisons explose, potentiel d'être taxé, disons, pas à 100% égal, là, mais on sait que ça va coûter une beurrée. Et vous avez des gens qui témoignent aussi de tout ce phénomène qu'on a vu dans d'autres quartiers, et c'est-à-dire prix des loyers qui montent, des rénovictions. Et tout ça, évidemment, c'est comme un déplacement de la population. Des gens qui ont les moyens d'aller vivre à Verdun, puis il y en a qui ont plus les moyens de rester à Verdun. Et ceux qui ont l'argent, ben prennent leur place. Alors, c'était un portrait ce matin de l'évolution à Verdun. Puis il y a une étude qui a été rendue publique aussi à 6 heures ce matin sur les rues commerciales à travers le Québec. Je vais me concentrer sur Montréal, là, parce que c'est notre grande région. Et c'est intéressant de voir les phénomènes. D'abord, en banlieue. Vous commencez avec la banlieue, la première couronne de Montréal. Là. Ça fonctionne assez bien. Il y a comme une reprise de l'activité économique. Et là, on regarde les locaux qui sont occupés. Et c'est soit des bureaux de professionnels, soit des restaurants, soit des commerces. Alors, Terrebonne, Repentigny, disons que ça va assez bien. Rive-sud de Montréal, ça va assez bien. Là. Dans le, on peut dire que l'après-pandémie, ou en tout cas, après le sommet de la COVID, il y a une reprise de l'activité économique. Montréal, là, vous allez vous reconnaître, les rues Masson, je regardais l'étude, Beaubien-Jarry, Mont-Royal, sont des rues où on a réussi à faire baisser le taux d'inoccupation. Pourquoi? Parce qu'on a développé du commerce de proximité. Il y a sans doute beaucoup de boulangeries, beaucoup de petits restos, beaucoup de petits cafés, beaucoup de... Bon. La rue Saint-Denis en arrache encore. Et l'étude montre assez clairement, et c'est une étude faite par une firme de conseil immobilier qui s'appelle Côté Mercier, là, que Saint-Denis s'améliore, mais que Saint-Denis est loin des belles années de la rue Saint-Denis. Là. Et autre observation qu'on peut faire, c'est vrai qu'il y a une reprise, mais ça demeure fragile. Puis là arrive toute la question de la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le secteur de la restauration, mais ailleurs aussi. Il y avait un article bien intéressant en fin de semaine dans le New York Times. Tu sais, la fameuse chanson de Frank Sinatra, New York, New York, là, tu sais, que ça fonctionne 24 heures, que, tu sais, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, tu peux aller à New York puis tu vas trouver quelque chose à faire. Ben, des restaurants qui étaient ouverts 24 heures ferment à 22 heures. des restaurants qui fermaient à minuit ferment à 20 heures, arrive un moment, parce qu'il y a une vie nocturne, où tout ce que tu trouves dans les rues de New York, les petits cafés, petites boulangeries, ou encore des camions de bouffe. Ils se promènent d'un coin à l'autre, puis c'est tout. Parce qu'on n'est pas capable de trouver la main-d'œuvre, parce qu'il y a une volonté d'avoir une meilleure qualité de vie. Et puis j'attire votre attention aussi sur un reportage de Thomas Gerbet sur le site de Radio-Canada ce matin concernant un projet de réforme des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés. Il y a toujours un principe qui devrait guider les dirigeants, c'est-à-dire la transparence puis la clarté. Il y a des gens qui veulent rien savoir des OGM, puis il y en a d'autres qui disent il n'y a pas de danger avec les OGM. Et à ce moment-là, ça devient un choix du consommateur. Est-ce que tu veux consommer, par exemple, des plantes qui ont été génétiquement modifiées ou des produits qui sont composés à partir d'OGM ou pas? Moi, je veux le savoir. Puis je veux prendre une décision. Et ce que Thomas Gerbet nous apprend, c'est que des lignes préparées par l'industrie, des semences, se retrouvent, semble-t-il, dans des documents du gouvernement. C'est comme si c'était du copier-coller, position de l'industrie, transportée par le gouvernement, qui mise beaucoup, beaucoup, dans plusieurs domaines, par l'autocontrôle. Et là, tu dis, dans le fond, à quel point les lobbyistes prennent la place de la machine, puis ultimement des positions gouvernementales. Et ça, entre vous et moi, c'est assez inquiétant, donc vous pouvez lire ça ce matin.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Les Québécois iront voter dans deux semaines. Il y aura le deuxième débat ce jeudi. Donc, la période de sprint qui s'engage. Et pour le Parti libéral, on peut dire que les tuiles se sont accumulées depuis le début, pas encore en fin de semaine. La chef du parti est avec nous, Dominique Anglade. Madame Anglade, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Je sais que vous êtes optimiste, mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord avec votre candidat de Matane qui se présente pas, puis là le DGE ouais. Dit que vous n'en avez pas de candidat.
Non, ben en fait le candidat de Matane, ce qui s'est produit, c'est que comme pour les 124 autres candidats, on a déposé les 100 signatures, puis pour un enjeu de ce que je comprends là, de ce qu'on m'a expliqué, un enjeu technique de signature ou de d'initial qui n'était pas à la bonne place, ça a été rejeté. On le conteste devant le DGEQ présentement.
Pierre Joliette, votre candidat. S'est retiré.
Alors, ça arrive, hein, des enjeux personnels, des enjeux professionnels. On a une belle candidate en la personne de Madame Crespin. Puis, vous savez quoi? On a de très belles candidatures à travers le Québec. Là, moi, quand je pense à des candidatures comme Jean-Maurice Matt qui est venu se battre à l'Assemblée nationale pour Sainte-Terre, quand je pense à Vicky Méham qui est à Magog.
Mais en même temps, ça montre que vous avez de la misère à recruter.
Il y a toujours des défis. Puis c'est ça le propre de la politique. Moi, je fais pas de la politique parce que c'est facile. J'en fais parce que j'ai cette petite flamme au fond de moi qui me dit on est capable de faire tellement
plus. Mais si on regarde les faits, là, est-ce qu'on peut dire ce matin que ça a été dur de recruter des candidats? Quand on prend des membres de son équipe, de son personnel, puis on les envoie dans des comtés, c'est parce qu'on manque de joueurs. Là.
Dans certains cas, ça a été plus difficile. Dans certains cas, ça a été plus difficile. Puis dans d'autres cas, ça a été des gens qui se sont amenés depuis un an avec nous, qui voulaient venir, qui voulaient voir la plateforme électorale, qui voulaient contribuer. C'est ça aussi un renouvellement. Le renouvellement de notre formation politique, là, ce qu'on fait présentement, là, on l'avait pas fait depuis des décennies. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce que c'est emballant? Oui.
Il y a quelque chose qui a été étonnant. Le Parti libéral est reconnu comme un parti pour l'entreprise, un parti d'expérience au gouvernement. Vous déposez un cadre financier, vous l'échappez de plusieurs milliards. Encore hier, on découvre qu'il y a des erreurs sur des projections. Comment le Parti libéral peut se tromper à ce point?
Ça Ça arrive des erreurs. D'ailleurs, tous les partis ont fait des erreurs.
On parle pas d'une couple de millions, là.
Ça arrive des erreurs. Mais vous savez quoi? C'était sur le cumul de la dette. Ça change rien. Ça change rien. Puis, ça change rien au fait que les propositions qu'on amène sont exactement les mêmes, que la dette va rester stable au bout du compte, qu'on va retourner à l'équilibre budgétaire au bout de 7 ans. Mais surtout.
Convenez avec moi que sur l'image, le Parti libéral qui se trompe de 12 milliards, là.
L'erreur est humaine, puis je pense qu'il faut la reconnaître, puis il faut la corriger quand ça arrive. À un moment donné, une fois que c'est corrigé, il faut que tu passes aussi à la suite des choses. Tu dis, qu'est-ce que ça change au bout du compte pour les propositions qu'on fait? Ça change rien. Donc, commençons à regarder les propositions qui sont faites.
Bien, je vais en prendre une proposition. Un médecin pour tous les Québécois. Il y a personne qui croit ça. Là.
Alors moi, je vous jure,
il y a personne qui croit ça. François Legault l'a promis, puis ça revirait en un professionnel de la santé pour chaque Québécois.
Mais vous savez moi, je regarde ça. Je refuse de baisser les bras par rapport à ça. Puis je vais vous dire pourquoi, Monsieur Arcan.
Mais promettez-moi pas un médecin par Québécois. Dites-moi que vous allez faire des efforts pour l'accès, mais on vous croit un peu plus.
Ok, mais je vais vous dire une chose. Entre 2014 puis 2018, là, je veux juste qu'on se dise les chiffres. Entre 2014 et 2018, il y a eu quand même 1 million de Québécois de plus qui ont obtenu un médecin de famille. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on a 1 million de Québécois qui sont en attente et qu'on va laisser complètement tomber l'objectif. Vous imaginez ce que ça fait? Ça veut dire que, dans le fond, on va se rendre peut-être à 1,5, à 2 millions en attente, à 2,5. On n'aura jamais, on se donne même pas la chance de réussir. Nous, ce qu'on se dit, c'est que, d'abord, commençons par les personnes qui sont vulnérables, les personnes qui ont des enjeux de santé mentale, les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est pas normal, M. Arcan, qu'une dame de 72 ans qui a une maladie chronique, qui a besoin de faire...
Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, puis on va prendre tous les secteurs. Vous avez fait des annonces en fin de semaine sur la santé mentale, puis les psychologues, l'accès. Il n'y en a pas de psychologues. Ceux qui sont au privé veulent pas trop venir au public. Ceux qui sont déjà au privé, qu'on paye, veulent pas trop prendre des patients compliqués. Il y a cette espèce de pensée magique, puis pas juste du Parti libéral, là, je l'ai entendu de Québec solidaire, on va garocher 1 milliard, puis là, les psys vont nous tomber du ciel.
Je suis tellement contente que vous me posiez cette question-là, parce que vous savez c'est quoi le nerf de la guerre présentement? On n'a pas de monde. Puis aujourd'hui, quand j'entends François Legault qui nous dit « la pénurie de main-d'œuvre, c'est une bonne nouvelle », ça n'a jamais été aussi désastreux. Moi, la mère de famille qui a 3 enfants, là, je regarde ce qui se passe dans nos écoles aujourd'hui, puis je me dis « on va jamais y arriver si on n'a pas plus de ressources ». Puis les ressources qu'on a présentement, elles quittent le bateau parce qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas de valorisation, elles n'ont pas de lumière au bout du tunnel.
Je vais vous dire, depuis le début de la campagne, j'ai pas entendu un chef prendre un engagement où les Québécois vont se dire, ouais, là, on est habitué aux vieilles promesses, aux vieilles méthodes, chez vous, chez Québec solidaire. Encore Québec solidaire, hier, c'était, on a des millions, des centaines de millions en santé mentale.
Sur la main-d'œuvre? Mais je vais vous en faire une proposition sur la main-d'œuvre qui a été faite.
Non, mais la main-d'œuvre, l'éducation. Parlez pas beaucoup d'éducation.
On va en parler, M. Arcan.
Avouez que durant, au débat, on n'a pas beaucoup parlé.
On n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais il y a 2 sujets que vous abordez. Vous abordez le premier sujet qui est la main-d'œuvre. Je vais juste répondre à une affaire là-dessus. On a besoin, évidemment, d'avoir plus de personnes qui viennent au Québec. Mais on a aussi des travailleurs expérimentés qui ont 65 ans et plus et qui veulent retourner sur le marché du travail, mais ça leur coûte de l'argent de retourner sur le marché du travail à cause de l'impôt. On a fait une proposition très spécifique.
La même que la CAQ.
Non, pourquoi la même que la CAQ? C'est pas la même que la CAQ.
C'est pas un crédit d'impôt.
Non, c'est pas un crédit d'impôt. Ce qu'on dit, c'est que au lieu de payer de l'impôt, c'est pas un crédit d'impôt, au lieu de payer de l'impôt à partir de 15 000 $, t'en paies à partir de 30 000 $. Et là, ça te ramène de l'argent directement. On a aussi dit qu'à partir de 62 ans, t'es pas obligé de contribuer à la régie des rentes. Ça te ramène de l'argent. Chaque fois que je parle à une personne qui est sur le marché du travail à 1 jour ou 2 jours par semaine, qui a plus que 65 ans, elle dit « ça, c'est vraiment intéressant, ça me ferait rester sur le marché du travail ». Ça, ce sont des mesures qui sont concrètes. Pour l'éducation.
Ouais.
Partie d'éducation de.
Ben oui, mais c'est, vous allez me promettre quoi, un prof dans chaque classe?
Non, l'éducation, c'est que il faut que notre école publique soit vraiment publique. Puis une des choses qui montre qu'il y a les jeunes arrivent à raccrocher, ce sont souvent les programmes art-études, sport-études,
vous avez promis de mettre l'argent là-dedans puis que ça coûterait pas un sou.
Ça coûterait pas aux parents, mais ce que ça va faire, ça, c'est que ça nous permet aussi d'aller raccrocher nos jeunes. Moi, quand je les vois.
Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, on a un sondage là dans Trois-Rivières, dans 2 comtés, là, La Violette. Puis le Parti libéral est à 7 %. C'est des comtés là où le Parti libéral gagne. Qu'est-ce qui est arrivé?
Encore une fois, là, c'est toute l'histoire de depuis 2018, etc., la présence qu'on a besoin d'avoir sur le terrain. Mais ça, c'est pour ça qu'on est en campagne aujourd'hui, pour aller à la rencontre des gens.
Dans votre comté, je regardais ça ce matin, la projection de Québec 125 vous place troisième. Mettons que c'est une lutte à trois dans votre comté. Dans Verdun, à côté, c'est trois. À part Darcy McGee, là, pis ce genre de comté-là, là, vous êtes dans les troupes solides.
Ben, moi, je regarde ça, là, puis je vais vous dire, moi, je suis députée depuis 7 ans, une députée qui est très présente. Je regarde Isabelle Melançon, une députée. Vous n'allez pas trouver une députée plus présente dans son comté à la rencontre du monde. Alors, moi, je regarde les sondages en me disant, je suis très confiante, je prends rien pour acquis, mais je suis confiante que les gens vont reconnaître, que les électeurs vont reconnaître que c'est un travail de terrain qu'on a fait tout
au long.
Vous
avez combien de comtés en avance selon votre pointage, le savez-vous?
Ben, il y a des chiffres qui sont partout. Moi, je regarde pas les sondages au quotidien. Je regarde pas au quotidien.
Non,
je les regarde pas au quotidien. Je vous le dis. Je vous le dirais si je les regardais au quotidien. Je ne les regarde pas au quotidien.
Ben, votre gang doit garder ça, certains, puis faire du pointage, puis vous dire, boss, on est dans le groupe, dans tel comté.
Certainement qu'ils regardent ça au quotidien et qu'ils regardent les chiffres au quotidien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ces comtés-là, on est confiant. Et on ne prend rien pour acquis, mais on est confiant. On est absolument confiant.
Il y a quelque chose d'admirable. Vous êtes convaincu, vous lâchez pas. Il reste 2 semaines. Puis là, je comprends qu'il y a des marges d'erreur dans les sondages, là. Mais ça va être probablement le pire score de l'histoire libérale.
Ah, pour dire ça là, ben, c'est avant, mais c'est dans 2 semaines. C'est pour ça qu'on a des campagnes électorales.
Mais qu'est-ce qui va faire qu'en 2 semaines, là, vous allez passer de 7 à 30-40% dans la violette?
Ben, écoutez. Il nous reste encore des débats, il nous reste encore des rencontres, il nous reste encore des personnalités aussi à découvrir, à se présenter. Je crois pertinemment que plus on entend parler de ce que les propositions qu'on fait, plus c'est cette mère de famille que je suis qui parle à la population puis qui a l'opportunité de le faire, ce qu'on n'a pas eu l'opportunité de le faire avant la campagne électorale, ils entendent quelqu'un qui croit vraiment dans les enjeux qu'on a, qui amène de véritables solutions, qui entend le message. Moi, sur le terrain, là, je vais vous dire, j'étais à Trois-Rivières hier, puis j'étais dans, je vais dans Verdun tout à l'heure, j'étais dans Anjou. La réception sur le terrain, là, tout le monde me dit, on a
les gens sont gentils, mais pas, ça se traduit pas par, juste, par des votes, là.
C'est pas juste que les gens sont gentils. C'est que les gens sont ouverts. Ils sont ouverts, puis ils regardent la situation, puis ils pensent pas que François Legault soit en train de mener une très bonne campagne, là. Ils pensent pas que les propositions de François Legault vont dans la bonne direction. Ils se questionnent beaucoup plus qu'ils se questionnaient avant. C'est à nous maintenant de faire en sorte que ça se convertisse dans l'urne.
Un de mes amis qui suit la politique pas mal me disait, en résumé, le Parti libéral, c'était fédéraliste, c'était clair. Puis c'était un axe, le fédéraliste-souverainiste. Tu te posais pas la question, si t'étais fédéraliste, tu savais quel bord voter. Là, arrive un changement dynamique. Moi, je sais que Québec solidaire est à gauche. Je sais qu'Éric Duhaime est à la droite, pas mal droite. Quelque part, la CAQ est au centre droit. Ça dépend des sujets. Parti québécois est souverain. Vous, j'arrive pas à résumer ça. Êtes-vous à gauche? Êtes-vous à droite? Oublions la question nationale. Sur le plan économique, vous êtes où?
Mais on est de centre gauche avec les propositions qu'on fait présentement.
Plus proche de Québec solidaire, PQ.
Non, c'est, et puis je vous dirais, mais quand vous regardez la boussole électorale, en fait, si vous regardez la boussole électorale, elle va vous le dire par rapport à nos propositions. Elle va vous dire centre-gauche, très ouvert en termes d'inclusion, en termes de tous les Québécois qui doivent participer à ça, et très économique également.
Mais vous n'êtes pas dépassé par Québec solidaire, par exemple, dans un certain... Ben, parce qu'il y a une clientèle qui...
D'un point de vue environnemental, là, par exemple, si on prend les enjeux de lutte au changement climatique, on est les seuls à proposer une approche qui soit gagnant-gagnant, où on gagne sur l'économie, puis on gagne sur l'écologie. On est les seuls à le faire. On est les seuls. La proposition qu'on fait de dire qu'on s'en va vers une transformation où on va investir dans l'éolien, dans le solaire, on va investir dans l'hydrogène vert, on est les seuls à proposer ça, alors que tout le monde à travers la planète se transforme. Nous autres, on est encore dans les mêmes choses qu'on faisait dans les dernières années. Les seuls.
Je vous ai dit une fois, avec le sourire, vous connaissez le Parti libéral, un chef qui perd ou une chef qui perd, ça reste pas longtemps.
Alors, c'est pas du tout mon intention. Donc, voilà. Vous allez me revoir encore souvent, Monsieur Arcan. Non, mais je suis une personne très déterminée, vous allez me revoir encore souvent.
Non, ça, je reconnais votre détermination, mais on s'entend que le climat est... Disons que le train est parti, là, puis...
Je suis pas en politique parce que c'est facile.
Non.
Je suis en politique parce que aujourd'hui, là, le parti qui est capable de regarder les gens droit dans les yeux puis de dire, on comprend les enjeux d'inflation, on va s'attaquer à l'enjeu le plus important qui touche tout le monde aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, puis qui a véritablement une vision sur la lutte au changement climatique.
C'est des partis qui me promettent des baisses d'impôts, puis qui, après ça, ni qu'il y a eu dans le passé, on l'a vu, là, des baisses d'impôts, puis des baisses de services. Puis après ça, on récupère, puis c'est l'austérité. Puis là, les Québécois mangent une claque parce que...
Ouais. Mais moi, si vous regardez le cadre financier, là, on a dit des baisses d'impôts, mais qu'est-ce qu'on a dit aussi? Qu'on allait chercher de l'argent dans les paradis fiscaux, qu'on allait imposer les grandes institutions également, que les gens qui allaient faire plus de 300 000 $ allaient payer de l'impôt. Donc, on a équilibré les choses.
Non, mais
c'est
parce que je me souviens d'avoir parlé à vos collègues à l'époque à l'éducation et à la santé qui me disaient que ça n'avait pas d'effet. Il n'y avait pas de régime d'austérité, alors que c'était faux. Là, t'sais. C'est pour ça que les Québécois, les électeurs sont sceptiques.
Oui.
Devant les partis qu'on dit traditionnels.
Mais vous savez, je peux comprendre le scepticisme des électeurs, mais moi, je suis quand même une nouvelle chef avec une approche qui est différente, où j'aime ça de dire des vraies choses. Moi, je viens à votre micro,
oh,
là,
oui,
puis je vous dis, on jase, puis je vous dis exactement comment je me sens, je vous dis comment je vois les choses.
Est-ce que c'est vrai que vous avez tassé des vieilles mains libérales, l'expression, là, les anciens organisateurs, tu sais, qui n'étaient pas nécessairement les bienvenus?
Ben, non, moi, je j'estime pas ça du tout.
Non.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit à un moment donné, c'est un nouveau style de leadership, est-ce qu'on veut participer, etc. Peut-être. Mais moi, à l'état du monde, c'est pas mon style. Je suis une personne très collaboratrice. Je veux que les gens embarquent. Mais on est aussi dans une transformation de notre parti. On est aussi dans un renouvellement. Puis il faut que tu épouses la cause où on va aller dans une direction qui est peut-être pas celle que tu avais vue dans les années précédentes. Puis je pense que ça fait partie de l'évolution de notre formation politique.
Madame Anglade, merci d'être venue ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Dominique Anglade, la chef du Parti libéral. Alors évidemment, c'est une journée historique, funéraille de la reine Élisabeth II depuis très très tôt ce matin, heure de Montréal. Les cérémonies ont commencé. Philippe Bonneville est à Londres et Philippe, donc, a une foule imposante à l'extérieur. Et là, on amorce le dernier parcours de la reine Élisabeth.
Oui, parce que les funérailles ont pris fin au cours des dernières minutes à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. Et il y avait des dizaines de milliers de personnes autour de moi. On est du côté de Hyde Park ce matin en direct et c'est tout près, ça, de Buckingham Palace pour assister justement à la cérémonie via des écrans géants. Parce qu'évidemment, le public en général n'était pas admis à l'intérieur de l'abbaye de Westminster et toute cette foule, eh bien, elle est toujours ici sur place pour suivre en direct la procession qui est en cours dans les rues du centre de Londres. C'est le son que vous entendez là derrière moi qui provient des écrans géants. Le cercueil de la reine Élisabeth qui est suivi à pied actuellement par le roi Charles et par plusieurs autres membres de la famille royale. Cette procession-là, Paul, elle approche de l'endroit où on se trouve actuellement et dans une vingtaine de minutes, eh bien, le cercueil sera transféré dans un corbillard et prendra ensuite la direction du château de Windsor où il sera enterré plus tard ce soir. Donc, beaucoup, beaucoup de gens ici en ce moment, notamment cette Française qui est venue directement de Paris et qui tenait à assister à cet événement-là ici dans la foule, je laisse entendre.
Pouvoir être avec les Britanniques, voir vraiment vivre ce jour historique avec eux, et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je me voyais pas être toute seule devant ma télé. Voilà, je voulais être avec tout le monde et vivre ce moment. Je trouve ça génial parce que Hyde Park, c'est un parc vraiment très grand et qui peut accueillir beaucoup de monde. Et même au niveau de la gestion, de l'organisation, il y a tout qui est super bien fait.
Et Paul, il y a des gens ici, oui, en très, très grand nombre. Probablement plus de 50 000 personnes, selon les gens qui ont parlé aux autorités du côté de Hyde Park. Mais il y a aussi des dizaines de milliers de personnes sur l'ensemble du parcours de la procession, un parcours d'environ 2,5 km. La plupart de ces gens-là ont passé la nuit dehors pour être certains d'avoir une place afin d'apercevoir le cortège.
Bon, autant de spectateurs, autant de dignitaires, ça implique des mesures de sécurité jamais vues à Londres. Plus de 10 000 policiers, Philippe, qui sont déployés.
Paul, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Il y a des policiers et des militaires partout, partout, partout. C'est le cas de le dire, là, au centre de Londres, qui est bouclé d'ailleurs. Tout le centre de Londres est complètement bouclé depuis hier après-midi. On parle de dizaines de rues qui sont interdites à la circulation. Et bien, sur chacune de ces rues-là, il y a des policiers ou des agents de sécurité de firmes privées à environ à chaque 2 mètres. C'est incroyable. C'est comme ça dans une immense partie de Londres actuellement. On peut comprendre le niveau maximal de sécurité qui est en place ici parce que ce serait la première fois de l'histoire qu'il y aurait autant de chefs d'État réunis au même moment dans le même bâtiment, donc au même endroit. Donc, évidemment, c'est une cible potentielle pour des gens qui auraient de mauvaises intentions. Donc, on a mis tout en branle ici du côté du Royaume-Uni pour assurer la sécurité des gens. Il y a des hélicoptères qui survolent le secteur depuis déjà hier soir. Il y a une interdiction de vol également. Aucun avion ne peut circuler ou ne peut voler au-dessus de Londres actuellement. Des mesures de sécurité exceptionnelles pour un événement exceptionnel. Mais jusqu'à maintenant, on peut dire que tout se déroule sans aucun problème.
Merci beaucoup, Philippe Bonneville, qui nous parlait en direct de Londres.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, une petite parenthèse électorale, Bercy Lamarck, sur les propos de Éric Duhaime quand il a proposé de hausser la limite de vitesse sur les autoroutes ou les autoroutes à 120 km/h, en disant, on sait, la limite officielle, c'est 100. Dans les faits, les gens roulent à 120, 118, puis il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi ne pas légaliser tout ça, s'inspirant aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. J'ai pensé à appeler Benoît Charrette, qui a roulé partout sur la planète, pour voir un peu comment ça se passe ailleurs, puis qu'est-ce qu'il pense de ça. Benoît, bonjour.
Salut, Paul.
Bon, c'est vrai que la limite officielle, là, si on prend l'autoroute au Québec, c'est 100, mais les gens, normalement, dans la voie de gauche, on est plus dans le 110, 112, 113, 115.
115, 118, 120, là, effectivement, depuis, tu sais, au moins 25, 30 ans. Puis l'idée d'amener les limites à 120 km au Québec, c'est pas nouveau, là. Le Parti québécois, pour nommer que celui-là, en mars 2018, avait présenté un projet de loi, la loi 165, qui voulait modifier le code de la sécurité routière et amener ça à 120 km/h sur nos autoroutes. Donc, l'idée en soi n'est pas nouvelle. Et c'est vrai qu'ailleurs dans le monde, tu sais, j'arrive d'Europe, là où j'étais en vacances cet été, la Suisse roule à 120, la France roule à 130, la Belgique roule à 120, l'Espagne roule à 130, l'Italie roule à 110 ou 130 selon les conditions routières. On roule à 120 en Allemagne et il y a encore certaines zones, évidemment, les fameuses autobahns où on roule sans limite de vitesse. Donc, de façon réaliste, là, la planète est pas mal entre 110 et 130. Alors, se situer à 120, on se placerait dans la normalité des choses. La seule chose, par contre, mon bémol, c'est que là, on tolère du 120 alors que tout le monde dit que c'est, on le sait, là, c'est marqué 100 sur les autoroutes. Il faudrait à ce moment-là dire, oui, on va mettre 120, mais mettez-vous pas à rouler 140 demain matin, là.
Je t'amène deux ou trois questions et avec ton expérience en Europe, sauf erreur, moi j'ai vu ça, semble-t-il, en Italie. Oui, il y a une limite de vitesse, mettons, à 130 ou 120, sauf qu'il y a des panneaux et dès que, par exemple, la météo change, qu'une pluie importante, comme on a connu hier, par exemple, arrive, bien là, c'est plus 120 puis c'est plus 130. Là.
Non, c'est 110, effectivement, en Italie, là, pour le nommer, c'est 110. Même chose en France. Puis bon, il faut procéder par logique. C'est sûr que d'une tempête de neige, personne ne va rouler 120. Puis quand il y a un déluge dehors, personne ne va rouler 120. Est-ce qu'on doit le faire à géométrie variable? Il y a plusieurs pays en Europe qui le font, dire, bon, ben par mauvais temps, ben c'est 100. Parce que 120, c'est trop vite, puis là, vous risquez de mettre la sécurité des gens en danger. Puis il faudrait aussi peut-être penser à rehausser la vitesse minimum, parce que vous le voyez sur l'autoroute, là, vous avez 60 et 100. Si on va à 120, il faudrait peut-être rehausser à 80, parce que, bon, on s'entend que 60 km/h sur l'autoroute, là, vous êtes un danger public. Donc, il y aurait peut-être ça à songer aussi. Mais ça fait, écoute, Paul, ça fait presque 50 ans, là, si c'est pas plus que nos lois sont à 100 km/h. Je pense que ce serait pas une mauvaise chose, mais il va
falloir... Mais parle-moi de la qualité de nos routes, là. Et si tu prends la 20 vers Québec, oui, là, à certains endroits, tu tolères 120, C'est pas un peu, comment dire?
Ouais, c'est une piste de motocross, comme on dit. Oui, non, c'est vrai que l'état des routes à certains endroits est pas très bon. Il faut peut-être être plus vigilant parce que effectivement là, puis même il y a des endroits où on a des, moi ce que j'appelle les ondins là, les poids lourds laissent littéralement des sillons dans la route là, puis des fois si on a certaines voitures là, on peut avoir tendance à valser un peu sur l'autoroute. Mais tu sais, je pense qu'en ce moment on le tolère. Je pense que c'est une bonne idée, mais il va falloir appliquer la loi puis dire 120, c'est un 120. À 125, là, on va vous coller un billet.
En terminant, c'est quoi l'impact, mettons, là, quelqu'un qui dit je respecte parfaitement les lois, je roule à 100.
Oui.
De passer à 120 en termes de consommation d'essence?
C'est 20% de plus. C'est pas compliqué. Alors, c'est un passez-y bien, là. Moi, j'ai fait le test plusieurs fois avec plusieurs sortes d'auto. La consommation de carburant entre 100 et 120 augmente de 20 %. Donc, c'est les gens qui disent, bon, ben moi, je veux profiter, essayer de tirer le maximum du véhicule. C'est sûr que si vous roulez moins vite, vous allez avoir une meilleure consommation. Ça, c'est clair.
Merci, Benoît.
Salut, Paul.
Salut, Benoît Charrette, qui est le rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. D'ailleurs, la nouvelle mouture est présentement disponible.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Avant de parler de football, avant de parler de hockey, il y a quand même un exploit qui a été réalisé dans les derniers jours par un jeune Montréalais qui s'appelle Sean Rodrigue Lemieux, champion du monde des échecs chez les moins de 18 ans.
Oui, c'est un tournoi qui était présenté en Roumanie. C'était du 5 au 17 septembre dernier. Il a remporté 7 parties. Il a eu 4 parties nulles, ce qui lui a permis de devenir champion du monde chez les moins de 18 ans. Alors, on va lui parler à l'instant. Sean Rodrigue Lemieux, bonjour.
Bonjour.
Bon, parlez-nous un peu de comment ça s'est déroulé, votre tournoi. Quel genre d'attente vous aviez quand vous vous êtes présenté à ce championnat du monde?
Bien, premièrement, mon attente, en fait, personnellement, c'était d'être dans le top 5 ou idéalement dans le top 3. J'étais très surpris, vraiment, de remporter le tournoi. C'était une belle surprise, évidemment. Je m'y attendais pas. Donc oui, ça, au début, c'était le tournoi a commencé plutôt correctement, rien de plus. J'étais quand même satisfait, mais j'aurais espéré avoir plus. Donc, dans le fond, après les 6 premières parties, j'avais 3 victoires et 3 parties nulles. Mais les 4 parties suivantes, j'ai réussi à les gagner. Donc, c'est très bien pour moi.
Quel genre d'expérience vous aviez sur la scène internationale? Et est-ce que vous connaissiez la plupart de vos adversaires à ce tournoi pour peut-être les avoir déjà affrontés dans le passé? Là?
J'avais quand même assez d'expérience dans des tournois similaires. Par exemple, j'avais participé au même championnat du monde en 2013. Quand c'était aux Émirats Arabes Unis, dans une ville près de Dubaï. Donc, c'était pas la première fois que je faisais ce tournoi. Et d'ailleurs, un de mes adversaires qui était là en Roumanie, je l'avais affronté dans ce tournoi-là 9 ans avant à Dubaï. Donc, ça faisait du bien de revoir ces gens-là que j'avais pas vu depuis longtemps. Et c'était encore une fois une belle expérience.
Parlez-moi un peu de vous. Vous avez commencé à jouer vers quel âge? Puis comment on se rend jusqu'à un tournoi comme ça, championnat du monde en Roumanie ou encore aux Émirats Arabes? C'est quoi le parcours?
Premièrement, j'ai commencé à 6 ans pour des activités parascolaires quand j'étais en première année. Ma mère avait décidé de m'inscrire et tout de suite, j'ai eu la piqûre, j'ai jamais arrêté. Donc, pour avoir un parcours comme ça, je pense qu'il faut vraiment avoir la passion. C'est la chose la plus importante pour moi, vraiment toujours vouloir continuer de jouer aux échecs, toujours aimer ça. C'est sûr que c'est toujours plus agréable de faire quelque chose quand on a la passion.
Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le jeu d'échecs?
Bonne question. Il y a beaucoup de choses, mais en particulier, je dirais, la discipline, la concentration et le fait de vraiment pouvoir se concentrer sur une chose à la fois. Et ouais, je trouve que c'est vraiment un beau jeu.
Et là, qu'est-ce que ça signifie pour la suite de votre carrière, ce championnat du monde?
C'est sûr que c'est vraiment... ça change ma carrière complètement. Ça va peut-être... c'est sûr que ça me donne un peu plus l'envie de peut-être essayer d'aller vers une carrière professionnelle aux échecs. J'aimerais toujours continuer mes études, mais c'est sûr que j'envisage toujours de poursuivre les échecs.
Et là, c'est une première étape dans le but de devenir grand maître également aux échecs, là.
Exactement. Donc, c'est le titre de grand maître, c'est le plus haut titre aux échecs. Donc, dans le fond, c'est je viens d'accomplir le tiers de ce qui est nécessaire pour avoir le titre.
Petite question en terminant. Est-ce que vous avez vu le film, la série, le jeu de la dame présenté sur Netflix où on voit cette jeune championne du monde?
Dans le fond, j'ai visionné le début de la série, environ la moitié. J'arrête pas de me dire que je dois la compléter. C'est quelque chose que je vais faire certainement. Puis, chose que, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, c'est vraiment une belle série. Chose que ça a vraiment attiré beaucoup de gens vers les échecs. C'était clairement popularisé le jeu et c'est vraiment super pour le jeu.
Ben, bravo à vous, monsieur.
Bravo, oui.
Merci beaucoup.
Alors voilà, c'était Sean Rodrigue Lemieux, champion chez les moins de 18 ans quand même.
Oui, victoire remportée en Roumanie lors d'un tournoi qui a pris fin la semaine dernière.
Alors, ailleurs dans le monde du sport?
Ben le hockey, là, ça s'en vient. Là, je pense que les gens qui s'ennuyaient de hockey... Là.
Ah là, écoute, là, hier, je regardais la température, me disait avec la pluie. Là.
Écoute, cette semaine, ça commence le camp d'entraînement du Canadien.
Sur notre golf, c'était la semaine passée.
La semaine passée, il y a les recrues qui étaient en action au cours du week-end à Buffalo, dans le cadre d'un tournoi qui réunissait les meilleurs espoirs de plusieurs équipes de la Ligue nationale. Hier, ça s'est terminé avec une victoire de 7-2 des Canadiens sur les Sénateurs d'Ottawa. Les recrues du Canadien terminent avec une victoire en 3 matchs. Et là, on se prépare pour l'ouverture du vrai camp d'entraînement. L'ouverture du vrai camp d'entraînement cette semaine, puis là, en fin de semaine prochaine, dimanche, il va y avoir le match rouge-blanc au Centre Bell. Dès
comme
le lendemain...
me disait un auditeur qui détient des billets de saison, ça commence à quelle date les matchs obligatoire pour les détenteurs de billets de saison. Tu sais que t'as pas le choix de prendre, là?
Non, mais je pense que ça commence lundi prochain, parce que les matchs en concours sont inclus dans le...
Dans le forfait, là?
Je pense que oui, là. Mm-hmm. J'avance ça, là, mais je pense que t'es obligé de prendre des matchs hors concours.
Ouais,
là, dans
ouais,
les...
ouais.
Alors, ça commence lundi prochain. Il y en a un lundi, il y en a un mardi. Il va en avoir 8 au total, mais 2 dans les Maritimes, entre autres, parce qu'il y a Craft Hockeyville. Là. Le Canadien participe à 2 matchs. Il y a celui de cette année, celui de l'an dernier, qui avait été, ou il y a 2 ans, qui avait été annulé à cause de
la pandémie.
Alors, c'est donc cette semaine. Sinon, CF Montréal, qui a gagné un record de la MLS avec une 6e victoire consécutive à l'étranger. Victoire de 1-0 samedi sur la Nouvelle-Angleterre. Ça assure le CF Montréal d'au moins la 2e place dans l'Est de la MLS. Pour le moment, il y a Philadelphie qui les devance au classement. Alors, il y aurait toujours possibilité pour le CF Montréal de rejoindre Philadelphie et terminer au premier rang. Et évidemment, comme à tous les dimanches, beaucoup de football dans la NFL. Notons la victoire des Jets de New York. Ils ont battu les Browns de Cleveland 31-30. Victoire également pour l'autre équipe de New York, les Giants, qui ont une fiche de 2-0 depuis le début de la saison. Les Patriots ont gagné. Jacksonville qui a gagné. 2e victoire des Dolphins de Miami. 2e défaite des finalistes au dernier Super Bowl. Les Bengals, battus 20-17 par les Cowboys de Dallas. Arizona revient de l'arrière et l'emporte en prolongation 29-23 sur Las Vegas. Et les Packers qui ont gagné également hier soir.
Merci, monsieur.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Habituellement, il vient ici pour parler de musique, de parler de son album, de ses spectacles. Il est ici ce matin pour parler d'un livre. Et quand on lit le bouquin, on se rend compte que ça a été un exercice pas simple et qu'il a dû se faire tordre le bras pour le faire. Bruno Pelletier, bonjour.
Ça n'a pas trop fait mal quand même.
Non, mais
bonjour, Paul, bonjour.
Ça ne tentait pas vraiment de faire ça.
Non, pas du tout.
De raconter, de revenir dans le passé puis de raconter ton parcours.
Non, parce que j'ai l'impression, c'est un cliché, mais j'ai l'impression que j'étais un gars bien ordinaire, mais avec une carrière ou, mettons, un métier qui est formidable, qui est extraordinaire. Et l'angle que Samuel Larochelle a pris, il s'est repris à 3 fois. Puis l'angle qu'il a pris, c'est justement, lui, il est un chanteur, en plus d'être un journaliste et un auteur. Donc, il y avait une dimension dans sa proposition que je trouvais intéressante, c'était d'aller parler, oui, biographiquement de mon parcours, mais sous l'angle du chanteur que je suis, pas juste d'aller raconter des anecdotes croustillantes ou des trucs. Il y a des questions, il y a des choses où je pense pas qu'un journaliste ou un auteur habituel aurait pensé je veux pas dire avouer, mais nommer des choses que j'avais jamais jasé avant.
On voit le parcours. Bon, le jeune qui commence avec son groupe, la tournée des bars avec tout ce que ça implique et bon, les premières ouvertures, si on veut, plus intéressantes. Mais je savais pas, puis je t'ai interviewé quand même une couple de fois, là, je savais pas l'anxiété qui pouvait t'habiter avant un spectacle, avant... je pensais pas que c'était à ce point-là.
Ben, en fait, faut mettre les choses en perspective. Ces anxiétés-là sont toujours reliées à des événements importants.
Ouais.
Donc, une première, je pense aux premières à Paris, à Londres ou Montréal, d'un nouveau show que tu dois présenter. Un événement, ça peut être un événement en direct à la télévision.
Quand t'as fait le pot pourri, je pense, des chansons à la
disque. Oui, à la disque. J'étais inconnu au bataillon. J'allais faire les 10 meilleures chansons. Puis là, il y avait des chorégraphies. Il y avait, en fait, bref, tout ce que je fais maintenant dans des comédies musicales. Mais personne ne me connaissait à l'époque. J'étais vraiment... C'est plus que mort de trouille, là. T'en es malade, là. T'es pas bien. Là, je sais que mon prochain gros défi, c'est à Paris, dans quelques mois. Je sais dans quel état je vais être. J'ai même dit à ma blonde, ce serait mieux que tu viennes pas pendant le premier mois. Le
okay.
temps que je dois monter tout ça, je suis pas dans un bon état. Je le sais comment je suis maintenant, puis j'ai trouvé les outils maintenant pour.
C'est quoi tes outils?
Beaucoup le sport pour éviter les pilules. J'ai pris des fois des bêta-bloqueurs puis des pilules pour m'aider, activant, trucs de même, pour essayer d'aider à calmer tout ça. Ça fonctionne, mais pas tant que ça dans mon cas. Je trouve que le sport, ça a été le truc que j'ai un des outils qui canalise le mieux pour être capable de passer à travers ce que je dois passer à travers. Et ce que je suis le plus fier aujourd'hui, mais ça, je pense, je l'ai même pas écrit dans la bio, je suis même plus sûr. C'est que c'est pas tous les trophées puis les disques d'or puis les choses comme ça. C'est d'avoir réussi à être encore là, à te parler. Ça fait 40 ans que je fais mon métier puis d'avoir passer à travers avec ça.
Justement, t'en parles dans le livre, t'as connu l'époque où on sortait un album, puis on en vendait 100 000, puis il y avait des spectacles qui suivaient, il y avait quelques plateformes, c'est complètement révolu cette époque-là, c'est autre chose. Mais t'as réussi à maintenir cette carrière-là, à être présent, que ce soit par des spectacles, mais aussi, bon, Notre-Dame de Paris, puis là, ce que tu vas faire en France. T'as quand même eu cette capacité à, avec le talent, là, quand même gérer ta carrière de façon efficace.
Ben,
pas seul, là, je comprends, non. Mais quand même.
Mais j'ai envie de dire, il y a la perception, puis il y a ta réalité. C'est-à-dire que on essaie toujours, puis tous les artistes font ça, on propose plein de projets, on essaie d'avoir une cadence aux 2-3 ans en général. Certains artistes peuvent aller à 5, 6, 7 ans, mais aux 2-3 ans, j'essayais de proposer des nouveaux projets, puis c'est pas vrai qu'ils ont tous fonctionné à fond. Ça serait mentir de dire ça. C'est les montagnes russes, ce métier-là. Mais la seule façon de devenir, je pense, un artiste qui peut être crédible, c'est le long terme. C'est d'être là longtemps puis de proposer sans arrêt quelque chose au public. Et parfois, t'as le grand bonheur que ça fonctionne. Et parfois, ben malheureusement, soit tu te plantes, tu t'es trompé, ou les gens sont pas au rendez-vous. Ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver.
OK, mais j'ai senti, peut-être, c'est pas ça, un certain malaise avec l'industrie.
C'est pas tellement un malaise, c'est une surprise. C'est que je me suis rendu compte que j'étais un peu comme un électron libre à travers. On se cachera pas là dans toutes les industries, c'est un peu comme ça. Mais celle de la musique, il y a quand même des gangs, des clics. Et j'ai été étonné souvent de voir que ça s'encourage pas tant que ça.
Écoute, je pensais à ça sur le gala hier des Gémeaux, on a senti ça. Aussi,
un peu.
Puis c'est comme, tu te dis, mais pour la musique, je me souviens d'avoir dit, mais pourquoi c'est pas la fête de la musique, point final?
Et voilà, je pense que tu mets le doigt dessus. Quand je regarde, peut-être qu'encore là, c'est une question de perception, mais je regarde les Grammys Awards aux États-Unis, on dirait que
tous les styles,
puis sont applaudis, et tu vois des artistes de hip-hop se lever debout pour un Lionel Richie, puis je veux dire, je me dis, on dirait qu'ils sont vraiment tous, ils savent qu'ils font tous le même métier, finalement. Et c'est pas toujours ce que j'ai senti dans notre gang. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je dois pas être le seul à me sentir comme ça. Puis, et comme tu dis, on regarde d'autres galas, puis il y a ça aussi. Là, on le voit un peu partout. C'est niché à gauche, à droite, avec des... Mais bon, à un moment donné, on passe par-dessus. Mais c'est pas un malaise comme un constat puis une surprise que j'ai eue. Parce que moi, comme tout le monde, quand j'étais plus jeune, je regardais ça à la télé, puis ça avait l'air le fun et tout. Finalement, j'ai eu mon fun à moi. J'ai trouvé mon fun à moi dans tout ça.
Puis les phases, les plus difficiles, les plus creuses, tu les gères comment?
Juste de mon mieux, là. Moi, on parlait de Notre-Dame de Paris. J'en parle dans le livre. C'est aigre doux pour moi. C'est le plus gros succès de ma vie. J'ai une chanson qui m'a permis d'aller dans plein de pays, chanter mes chansons à moi, le temps des cathédrales. Et en même temps, je divorçais. d'une femme avec qui est la mère de mon fils et qui avec qui je suis en super bon terme, qui est encore une amie. Mais c'est, on sait qu'un divorce, c'est compliqué. Mmh. Et là, je vivais en parallèle le truc le plus immense. Je venais de sortir Miséréré au Québec, puis je tombais dans Notre-Dame de Paris. De 98 à 2004, ça a été comme une espèce de folie. Et j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer ce que ça représente, ce niveau de popularité-là. Et je pense, et ça j'en parle aussi un peu, je pense que je me suis un peu saboté après, inconsciemment, à faire des projets plus... tu sais, genre, tout d'un coup, tu décides, tu fais un album de jazz, t'sais. Ça, c'est moi. J'ai toujours été un gars éclectique puis un gars curieux, mais mon entourage me regardait puis me disait, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Finalement, j'ai pas eu tort. J'ai fait 122 spectacles. On a gagné l'album jazz de l'année. On a quand même, puis parce que je me suis entouré de vrais jazzmen, mais j'ai pris une grande chance et c'était une façon de sortir de cette espèce de tout le côté trop populaire. Je pense qu'aujourd'hui, à 60 ans, j'ai beaucoup plus de recul là-dessus, puis je prends ça avec un grain de sel, avec un petit sourire en coin, tout ça, puis c'est beaucoup moins grave. C'était comme si c'était trop grave à l'époque.
Bruno, merci d'être venu ce matin.
C'est déjà fini?
Oui. Oh. Bruno Pelletier, il est venu le temps, un entretien, en fait, des entretiens avec Samuel Larochelle, c'est publié chez Libre Expression.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Patrick Sedécal est avec nous pour parler de son nouveau livre. Le titre, Résonance, ça commence de façon très claire. C'est l'histoire d'un écrivain. Contrairement à Patrick Sedécal, qui lui peut vivre de son métier, votre personnage, lui...
Succès mitigé, mettons.
Mettons.
Ouais.
Et bon, blanc, hétérosexuel, et il s'en va passer un examen d'imagerie médicale. Et à partir de là, ben, tout décolle. On ne sait pas si on est dans la réalité, est-ce qu'on est dans un autre univers, des événements violents se produisent. D'abord, bonjour, M. Sénécal.
Bonjour.
Vous êtes ailleurs que là où vous nous amenez d'habitude.
Jusqu'à un certain point, oui. C'est encore un trailer, il y a encore un aspect horreur, suspense, tout ça, mais plus le roman avance, plus il y a un côté métalittéraire, où, là, je ne veux pas trop en dire, mais où je pose des questions par rapport à l'écriture elle-même, relation auteur-personnage. Fait que oui, il y a un côté un peu plus littéraire, intellectuel. Mais je voulais que ça demeure un thriller, je voulais que ça demeure un suspense, puis que le monde puisse quand même trouver son compte là-dedans. Parce que souvent, ce type de roman-là, où on pose des questions sur qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce que les personnages, qu'est-ce que l'auteur, c'est dans des romans très sérieux. Par côté de ça, t'as des thrillers qui posent pas ces questions-là, en général. Il y a Luna Park qui fait ça. Bret Easton Ellis a fait un peu ça aussi dans son roman, mais on le fait pas souvent dans le thriller pis dans l'horreur. Fait que je voulais comme mixer un peu ces deux genres-là, ce qui me permettait d'aller ailleurs, tout en restant dans un univers que je connais.
Mais l'univers que vous connaissez, là, d'abord, vous décrivez des événements qui sont violents, pas un peu.
Oui.
Là. Puis je n'irai pas dans les détails, le lecteur va le découvrir, mais et ces événements reviennent à répétition tout le long du livre.
Oui.
Ça, c'est clair. Là, que...
C'est comme des boucles.
Oui, puis en même temps, c'est comme si un des angles du livre, c'était ce qui est extrême, c'est-à-dire la mort violente, les propos extrêmes tenus par des gens qui sont à gauche, qui sont à droite, par des woke, par des bononcles. Ça polarise votre bouquin, non?
Ouais, ben c'est j'imagine un monde où puis là mon personnage se rend compte que les gens, c'est ça, vivent là, vont dans leurs pulsions les plus primaires qui sortent. Et là je me suis imaginé bon, quel genre de pulsion pourrait sortir aujourd'hui? Puis effectivement le côté l'espèce de comment dire, je veux pas dire conflit parce qu'il y en a qui s'entendent très bien, mais il y a une polarisation en ce moment entre disons les jeunes woke et les vieux certains jeunes woke et certains vieux qui veulent mononcle qui veulent pas changer là. Fait que j'essaie d'imaginer si ces deux extrêmes là décident de d'aller jusqu'au bout de leur pulsion, jusqu'où ça pourrait aller. Bon, là évidemment que ça va loin dans mon roman. Mais parfois, je lis des commentaires sur Facebook où j'entends des commentaires. Autant de quand j'étais avec des amis de mon âge que quand j'étais avec des plus jeunes, dans les deux camps, j'entends des commentaires des fois que je fais « tabarnouche, c'est quand même intense. »
Votre prof de cégep, là.
Oui.
Bon, votre prof de cégep, il dit « Non, mais il se passe quoi, là? Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ci? Pourquoi est-ce qu'on peut plus dire ça? Pourquoi il faut se soumettre à cette espèce de... je dirais de bien-pensance,
Ben, voyez-vous, c'est un bon exemple, ça, parce que le prof de cégep, pour moi... Dans ce qu'il dit, il a raison. Que ça l'agace qu'un prof doit être obligé de surveiller chaque mot qu'il dit, de plus faire lire tel livre parce qu'il y a tel mot dedans. Ça l'agace profondément. Ça, je comprends ça. mais la manière qu'il l'exprime et la solution qui va, son humeur face à ça, c'est ça qui est complètement déraisonnable. Comme certains woke ont raison dans le wokisme au départ, moi, c'est un mouvement qui me va très bien, mais il y a des dérapages.
C'est le réveil.
Il y a des dérapages là-dedans, comme il y a des dérapages dans les vieux qui veulent, moi, j'ai 54 ans, je fais partie des vieux, là, par rapport au woke, là. Pour ma fille, mon gars, j'étais un vieux, là. Mais je pense qu'il y a des choses que je dis qui ont de l'allure, mais je pense que je pourrais l'exprimer de manière tellement violente, hostile et prétentieuse, que c'est ça qui marcherait plus. C'est ça qui serait insupportable. Alors, c'est plus la manière que les choses se disent maintenant que le contenu. Je pense que le contenu, tout est parlable, tout est discutable, mais la manière que ça sort dans les médias, ça, ça n'a aucun sens. Et ça, je pense que c'est juste se tirer dans le pied. Et là, dans mon roman, c'est jusqu'où tout ça pourrait aller si on le vivait à plein. J'espère qu'on n'ira jamais jusque-là, évidemment, là. Mais moi, j'aime imaginer le pire en général. Fait que
c'est pour ça que ça rend la lecture intéressante.
J'imagine.
Non, mais c'est vrai qu'on s'en va vers des situations comme ça qui sont extrêmes.
Ça peut arriver, oui.
Pensez-vous que la pandémie a été un facteur qui a accéléré ça?
C'est une bonne question, mais la pandémie, en tout cas, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a isolés encore plus chez nous, et donc on s'est retrouvés encore plus sur les médias sociaux. Fait qu'on souvent pendant 2 ans presque, les seuls moyens de communication qu'on avait pour parler à des gens, c'était par l'intermédiaire des médias sociaux, ce qui est pas l'idéal pour nuancer, comme je disais, tout ça. Les soupers de groupe où on peut parler, puis discuter, puis se renvoyer la balle, puis dire « Ah oui, t'as raison, c'est pas fou, hein, c'est pas bête. » On n'avait plus de ça pendant 2 ans. Puis là, c'est une suite de monologues, c'est ça, hein? Facebook, c'est des monologues.
Avec chambre d'écho.
Oui, exactement. Fait que je pense que le fait d'avoir juste ça pendant 2 ans, oui, puis l'anxiété, en plus, il y avait des gens qui étaient très anxieux à cause de la pandémie. Et quand t'es anxieux, t'es encore plus... T'es moins nuancé, puis t'es plus à la défensive. Fait que oui, ça a peut-être empiré les choses. Il y a des gens en ce moment qui ont encore peur de retourner dans la société, faire des soupers et tout ça. Les salons du livre, moi, je connais des auteurs qui veulent pas venir dans les salons du livre parce qu'ils ont encore peur de pas beaucoup, là, mais il y en a une couple. Fait que si on réapprend pas à parler entre nous en vrai, on peut pas juste se parler sur les médias sociaux.
En tout cas, ça ferait un bon film, peux-tu vous dire?
Ah, ben, vous êtes pas le premier qui me dit ça. Ben, moi, je suis d'accord, je dirais pas non.
Merci beaucoup d'être venu. Patrick,
merci beaucoup, Paul.
Sénécal, le nouveau livre Résonance, c'est en librairie, je pense, le 22 septembre.
Oui, cette semaine.
Cette semaine.
Voilà.
C'est déjà complet pour ce matin. On vous souhaite une bonne journée malgré la température coussi-coussa. On vous retrouve demain, 5h30. Salut, bonne journée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.